Namasté. Tu écoutes Signe et Sens, l'émission qui réveille le goût de la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir ou de te rappeler, si tu connais déjà cette méthode, eh bien les quatre règles d'or de la communication non violente. Une communication pacifiée, une communication du cœur, véritablement. Cette philosophie, pour moi, je la considère ainsi, est inspirée de Gandhi et basée sur les recherches empathiques de Carl Rogers. Et là, c'est Marshall Rosenberg, un psychologue américain, qui en a élaboré les fondements, la méthode. Nous trouvons d'ailleurs un livre fort bien fait, si vous voulez vous y intéresser de plus près. Eh bien, c'est les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg. Pour moi, c'est le béaba. Voilà. Eh bien, son terrain d'expérience, cette méthode, fut quand même les prisons américaines, d'abord en Afrique du Sud, pour essayer de trouver un chemin de résolution des conflits, avec succès, souvent. Nous savons que l'empathie réciproque s'avère parfois impossible à maintenir, mais quel que soit son champ d'intervention, que ce soit une thérapie de couple dans la famille, au travail, en établissement pénitentiaire, dans les écoles aujourd'hui, eh bien cette philosophie poursuit le même but en fait. Et la clé, c'est d'inciter chacun à exprimer clairement son besoin sans blesser l'autre. Je dirais même en accueillant ce qui ne se dit pas au travers une autre forme de communication, de gestuelle, par exemple, corporelle, notamment. Voilà. Nos discussions s'apparentent trop souvent à une mise en accusation de l'autre. Je l'observe tellement dans mes cabinets, dans les couples et les familles que je reçois, bien entendu. Et les enjeux de communication représentent plus de la moitié des motifs de consultation. C'est donc énorme. Ça veut dire que nous avons besoin d'être dotés d'outils pour comprendre ce qui s'agit en nous, comment nous fonctionnons et comment mieux nous aider les uns les autres pour mieux nous comprendre. Voilà. L'idée est peut-être pas tant d'écouter pour répondre à ce que me dit l'autre, mais véritablement pour l'entendre. Au-delà de ces mots, nous parlons trop, nous parlons trop et trop mal, bien souvent, et je crois qu'il ne faut nommer juste que ce qui doit être nommé, et surtout en cas de conflit, il ne devient pas rare d'assister à un verbiage et parfois une communication complètement abstraite parce que la personne est noyée dans son émotion. Et là, l'attention de l'autre, ça fait, c'est évident. On dira que, par exemple, quand il y en a un qui va vider sa coupe ou son vase, eh bien, l'autre est submergé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour entendre. Voilà. Et là, bien entendu, cette attitude-là fait baisser la qualité de la connexion. Forcément que quand j'en suis là, c'est pas très facile pour moi d'être dans une posture où j'entends au-delà des mots. Donc, ok. Alors, on y va. Je vous invite à peut-être prendre quelques petites notes si vous en avez envie, mentales ou notes écrites, bien entendu, ou réécouter plusieurs fois ce podcast afin de vous laisser pénétrer par cette philosophie très sage pour échanger. Voilà. Alors, en tout premier, observez les faits. Eh bien, oui, je remarque un comportement concret qui va affecter mon bien-être. Ça peut être le désordre dans la chambre de mon enfant, de mon homme, de ma femme, enfin, peu importe la situation. En communication pacifiée, eh bien, je dois m'efforcer de considérer cette situation objectivement. c'est-à-dire sans forcément la teinter d'un référentiel qui m'appartient et sans jugement. Alors oui, pas facile. Pour le philosophe Krishnamurti, par exemple, l'observation sans évaluation est la plus haute forme de l'intelligence humaine. Alors, c'est dire que nous avons beaucoup de chemin à faire. Marshall Rosenberg nous prévient souvent contre les pièges des fausses observations qui sont autant de jugements qui se déguisent. C'est du désordre dans la chambre et je passe à la paresse de l'enfant, je vais voir le retard de quelqu'un avec qui j'ai rendez-vous comme un manque de respect pour moi. Vous voyez comment on peut évoluer sous la tension de la cocotte qui mijote, en fait, la situation. Alors, heureusement, à ce stade, je ne suis pas obligée d'en parler. L'observation sans jugement peut se faire mentalement, en moi. Peut-être que cela vaut-il mieux, car je dois aussi me poser la question, mais pourquoi, moi, ce désordre et ce retard me gênent-ils à ce point ? C'est le premier des nombreux retours sur soi auxquels cette méthode fait appel, finalement. Quand il sera temps de communiquer, je pourrai en rester la situation avec simplement de la sobriété et de la précision et en évitant tout jugement. Certainement pas en commençant par un « tu » qui tue, qui est très cher à mon ami Jacques Salomé. Tu agis toujours comme ceci. Ne fais jamais ça. Tu accuses en fait et blesses et ne laisse pas la place au dialogue, en tout cas pas celui de l'émotion, voilà. Et bien souvent il ne reflète pas complètement la réalité. En tout premier point, c'est j'observe. Deuxième clé, on reconnaît les sentiments qui s'animent à l'intérieur de nous. Cette réflexion sur moi-même va également me permettre d'identifier mes sentiments face à la situation. Puis-je les exprimer ? Je me dois évidemment de me demander ce que j'éprouve, de la colère devant le désordre, la tristesse face à l'oubli et non ce que je crois que les autres pensent en agissant ainsi. Mon enfant se moque de moi, mon conjoint me méprise, je compte pour personne, tout le monde se fiche de ce que je fais dans cette maison. La difficulté ici, en fait, réside dans le tabou qui existe dans de nombreuses cultures de famille où parler de soi, de ses sentiments, ça peut être narcissique, ça peut être inconvenant, que sais-je. Pourtant, si notre vision est toujours partielle, nous n'existons comme sujet qu'en disant « je ». « J'exprime mes sentiments » est une façon de clarifier ce qui est vivant en moi et autour de moi. Et cela donne à l'autre la possibilité d'être sujet lui aussi, pas objetivé. Quand je m'accepte comme vulnérable, par exemple, j'accepte la vulnérabilité de l'autre. Dire mon sentiment, c'est inviter l'autre à dire le sien. Je souffre de voir l'état de ta chambre. Je m'inquiète quand tu ne me préviens pas. Autant de phrases qui lui permettront de donner sa position, mais enfin c'est ma chambre. Ou, mais écoute, je n'ai pas eu le temps de t'appeler et j'en suis désolée. Voyez. Troisième clé, et exprimer ses besoins. Pas question d'en rester là, car derrière les sentiments, bien, se tiennent les désirs, les besoins ou les valeurs qui se sont éveillées. Là encore, on associe souvent l'expression d'un besoin à l'égoïsme ou au narcissisme. Or, je ne peux pas entendre l'autre si je ne comprends pas quels sont mes propres besoins dans la relation. Inversement, la clarté avec laquelle je les comprends va me permettre d'identifier ceux de l'autre. La conscience de nos besoins fondamentaux, elle nous rassemble en fait. Tous les êtres humains sont les mêmes. J'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de beauté, de propreté dans la maison. J'ai besoin de savoir que je compte pour toi. La première réflexion est toujours dirigée vers soi-même. Nous voici conduit à nous interroger sur nos propres peurs, nos véritables besoins. Ce besoin d'ordre vient-il de ma propre enfance? Ce désir d'être rassuré? De quelle peur est-il la projection? Quatrième clé, Eh bien, comment formuler sa demande? C'est-à-dire que nous en arrivons au temps des faits. Demander à l'autre des actions qui sont concrètes, qui vont contribuer à mon bien-être. Attention à ne pas faire des propositions qui soient négatives. Je veux plus voir de désordre dans cette chambre. Donnera rarement de bons résultats. Le mieux est encore de discuter de ce qu'on pourrait faire ensemble pour que les choses s'arrangent pour les deux. En fait, c'est poser les jalons, surtout auprès des enfants, d'une négociation. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça. C'est une négociation permanente. Alors, avec cette philosophie de la communication du cœur, il y a une deuxième phase, celle de l'écoute, où l'autre va d'abord exprimer ce qu'il a compris de notre demande, puis formuler lui-même son propre point de vue en respectant le code, observation, sentiment, besoin, demande. Tout l'art du discours non violent est de vérifier que l'on se comprend sur ces quatre points, ce qui dénoue déjà bien des malentendus. C'est la partie la plus pénible, bien sûr, de la méthode. Avec ses paraphrases, elle peut paraître artificielle, voire carrément lourde, parfois pour les stagiaires qui apprennent, ou les personnes qui entrent dans l'intégration de ces quatre préceptes, comme si quelque chose n'était pas naturel. Mais effectivement, c'est pas naturel pour nous, dans la mesure où nous n'avons pas grandi avec une nourriture à cet endroit. C'est-à-dire que on nous a appris à parler, mais pas à communiquer. Donc, nous avons tout à apprendre afin que cela devienne naturel. Je te remercie de m'avoir dit ce que tu as entendu de ce que je t'ai dit. Et oui, je constate que je ne me suis pas exprimée assez clairement. Je vais reformuler mon discours. J'entends bien ce que tu veux dire. Ce sont des classiques qui, lorsque la vérité empathie, la vérité de cette chaleur de l'humain qui veut comprendre l'autre, n'est pas au rendez-vous, peut en effet produire un peu d'agacement. L'attention dans laquelle nous abordons l'autre est essentielle pour éviter les rapports de pouvoir. Il est précieux de constater l'autre, de le considérer comme un allié, pas comme un ennemi. L'autre, c'est comme s'il faisait partie de nous. De manière générale, je dirais qu'il est toujours juste de considérer l'autre comme notre meilleur ami ou comme la meilleure partie de nous. On peut oublier tout de l'aspect technique, mais garder l'intention. Et pour la cultiver, il faut pratiquer en fait. Appliquer au dialogue intérieur aussi, qui peut être très intéressant avant de répondre. Faire défiler ces quatre petites clés dans sa tête. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce que je ressens quand il me dit ça? Ou quand il se passe ça? En fait, j'avais besoin de quoi, moi? Et quelle demande je peux formuler pour nourrir le besoin qui est le mien, tout en nourrissant celui de l'autre? Voilà. Donc, c'est véritablement un chemin de pacification, un chemin de paix. Je pense que c'est une des clés qui nous amène à plus de respect et d'authenticité dans nos relations, bien entendu. Voilà. Allez, je vous souhaite une jolie journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.